I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume toute l'actu tech, internet et gadgets. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui, alors deux choses. D'abord, je suis sur la connexion 4G parce que la fibre a sauté, ça arrive de temps en temps, donc mes excuses par avance si. Mais vous voyez, quand, dans ma campagne finlandaise, quand on n'a pas la fibre, on a quand même la 4G, même à 10 km de la première ville, donc c'est quand même cool. Et la deuxième chose, c'est que mon fils est un petit peu malade, il a éternué deux fois, donc évidemment, on ne l'emmène pas à la crèche et donc il est dans la pièce d'à côté, donc je parle pas trop fort, encore une fois. Heureusement, il y a à côté de moi, virtuellement, Cédric Ingrand et Elsa Bimbaron, qui sont là et qui, eux, peuvent parler très fort. Comment allez-vous, messieurs, dames?
Moi, je suis au bord de la crise de jalousie depuis que je sais que dans ta campagne, tu as la fibre et la 4G, parce que moi, c'est la 4G, mais pas la fibre.
Oui, écoute, mais comme tu vois, chez lui, c'est fromage ou dessert. L'un ou l'autre, apparemment.
Non, généralement, ça fonctionne. Bon, on a plein de choses qu'on va évoquer. Et je vais faire un truc un petit peu différent d'habitude, comme on l'a fait une ou deux fois par le passé ces dernières semaines et ces derniers mois. On va parler des gros sujets sérieux, à savoir l'attitude de Facebook par rapport aux messages injurieux de certaines personnalités et la manière dont elles sont gérées. On va en parler un peu plus tard dans l'émission. On va commencer avec des news tech un petit peu plus cool, puisque vous le savez évidemment, le but de cette émission, c'est de vous parler de toutes les news tech cool et intéressantes et d'approfondir dans l'analyse, bien sûr. Et on va faire ça sur les news diverses, un petit peu moins, oppressante, parce que c'est vrai que depuis quelques semaines et quelques mois, ça pèse beaucoup. Donc, on va commencer avec des trucs Apple, des trucs sur de la 5G, des trucs sur de la pornographie, etc. Des questions légales, bien sûr. Et avant ça, j'aimerais tout de même remercier les auditeurs qui soutiennent l'émission sur Patreon, à savoir Pascal Bertossa, Psst Petite, Dominique Jean-Prost, El Gorast, Stéphane Rodet, Jérémy Dubreuil, Quentin Lehambre, Pierre G et Norbert Lataille. Merci à vous tous et à tous ceux qui soutenaient l'émission. À savoir également que je suis en train de tester un nouveau format, un format de rattrapage qui est une version rééditée et très courte de l'émission qui dure à peu près 10 minutes et que je voudrais mettre dans le flux de l'émission en fin de semaine, en toute fin de semaine, pour que vous me disiez ce que vous en pensez et peut-être à terme développer comme ça. Donc si vous n'avez généralement pas le temps d'écouter l'émission, sachez qu'il y aura désormais avant la sortie de l'épisode de la semaine suivante, enfin il y aura désormais, je voudrais tester cette idée, avant la sortie du prochain épisode, de mettre une version compressée qui a forcément moins d'analyse et qui est moins intéressant, mais qui peut permettre à ceux qui ont une semaine très très chargée de se rattraper, de garder les infos importantes. Donc je testerai ça et je vous demanderai votre avis sur Twitter et d'autres réseaux sociaux, sur ce que vous en pensez. Donc, on en reparlera à ce moment, mais sachez que va arriver, on va dire, vendredi midi, soirée, cet épisode compressé, et je serais curieux d'avoir votre avis. Les patriotes, les gens qui soutiennent, ont déjà eu la primeur de la chose avec l'épisode de la semaine dernière. Là, vous aurez celui de cette semaine. Bon, allez, Cédric et Elsa sont super chauds bouillants, n'est-ce pas? Vous êtes prêts à parler tech, à tout nous faire comprendre? Moi, je vous avoue qu'il y a des choses que je ne comprends pas, donc je suis content que vous soyez là. Première chose, on va parler un petit peu Apple. Quand on veut sourire, pour différentes raisons, c'est toujours vers Apple qu'on se dirige. Il semblerait qu'ils sont en train de repenser à l'idée de réunir tous leurs abonnements en même temps dans un seul abonnement, ce qui est logique, on en avait déjà entendu parler, mais si vous avez vu passer la news ici et là, la partie importante, c'est que les contrats pour Apple Music n'inclut pas la possibilité de regrouper tous sur un abonnement. Donc, a priori, c'est pas pour tout de suite quand même. Donc, moi, j'étais très content. Et puis, j'ai lu la fin de l'article et je me suis dit, oh, bon, tant pis. L'iPhone 12... serait encore plus probablement décalé au mois d'octobre plutôt qu'au mois de septembre pour son lancement. Et il y a une possibilité, possiblement avec iOS 14, d'enregistrer les appels directement pour certaines applications. Moi, ça m'a immédiatement fait penser à la possibilité, enfin, de, d'enregistrer des podcasts directement sur un iPhone, ce qui en ferait un parfait, un studio d'enregistrement.
Et ben voilà.
Ouais. C'est là qu'est allé ton esprit.
Bah évidemment, attends, t'imagines, tu lances un FaceTime avec quelqu'un, tu cliques, boum, record, ne serait-ce que le son, hein, même pas la vidéo,
bah bien sûr.
Allons pas jusque-là, mais pourquoi pas, et ça y est, ça marche, là, ouais, ce serait une réelle avancée. Il y a des solutions, surtout dans le monde Android, parce que il y a des choses un peu plus ouvertes, mais oui, ce serait, c'est nice to have, c'est pas révolutionnaire, mais oui, ça ferait plaisir.
Le regroupement de tous les abonnements Apple, Apple TV, Apple Music, bon, Apple News, News Plus aux États-Unis, et puis tout simplement iCloud, et ces choses-là, c'est logique également. Je suis surpris que ça soit pas déjà arrivé, en fait. Mais il semblerait qu'ils travaillent dessus. Vous le voyez arriver ?
Ben oui, quand tu pourras le payer avec ton Apple Card. je plaisante, mais sur Apple Card, ils vont t'encourager à évidemment faire tes achats chez Apple avec ton Apple Card en échange de crédits gratuits, de facilités de paiement, etc. Mais il y a une logique éminente, c'est-à-dire que tu es quand même dans la grande maison de l'intégration verticale. Donc si on peut te vendre, mais même si on peut te vendre en fait le package, parce qu'en fait, quand tu achètes un iPhone ou quelque chose de ce genre, c'est pas juste un appareil que tu achètes. Alors là, je vais avoir l'impression de me faire la voix du communiqué de presse, mais tu vois, c'est tu achètes la clé qui te permet de rentrer dans un écosystème seamless, comme on dit en anglais, parce qu'en français, ça veut dire sans couture, ce qui est quand même pas terrible. mais où, voilà, tout est intégré, tout marche bien
sans
ensemble.
Friction,
donc c'est vrai que si tout
dire.
À coup, on te dit, tiens... je te donne Apple Music, hein, Apple TV, un iPhone, plus des services,
ton stockage en ligne, ton machin.
Et je te dis, c'est 49,90 tout compris, et tu changes d'iPhone dès qu'il y en a un nouveau, je pense que tu achètes.
Bah ça, il y a déjà
en
une
plus,
version.
C'est un bel index de fidélisation. Enfin, ça fait un petit moment que les opérateurs télécoms ont compris comment ça fonctionne. Quand ouais. Les opérateurs télécoms proposent des packs internet, télé, téléphone mobile pour toute la famille, les family trucks, c'est pas juste parce qu'ils aiment les enfants, hein, c'est parce que plus t'as d'abonnements chez un opérateur, enfin peut-être aussi, c'est parce que
bien
plus
sûr.
On a d'abonnements chez un opérateur, plus on a envie de rester chez cet opérateur, c'est une
ouais.
telle prise de tête de changer. Là, une
exactement.
Fois, tu vas plus résilier ta vidéo, ton machin, ton truc, tu auras tout en un seul endroit, et puis dans ta petite bulle avec ta petite pomme, et tout ira bien.
C'est ça,
on
n'arrive
pas en fait à pointer le moment où les services d'Apple, particulièrement sur iPhone, sont passés d'un statut où ils étaient un outil de fidélisation, parce que c'était ça quand même au début, l'App Store. C'est-à-dire, voilà, tu vas rentrer dans un écosystème, tu auras tous les outils, tous les machins, iCloud, pareil, évidemment. Et en fait, c'est des choses qui vont, un, te simplifier la vie, mais deux, te la compliquer quand même largement si tu veux passer dans la boutique d'en face. Et un jour, il y a eu, une espèce de... On a passé un Rubicon et ces services sont devenus, là pour le coup, des machines à générer du cash pour Apple. Mais ça reste aussi, évidemment, à la base des outils de fidélisation. Et c'est vrai que, si tu es serré par, comment dire, le fait que tu aimes bien la plateforme, le fait que tu aimes bien tes iPhones, tes machins, tes iPads, tes trucs, mais en plus tous les services qui vont autour... C'est ça aussi pour moi, l'Apple Card. C'est tout un, parce que l'Apple Card, elle ne fonctionne que sur iOS. Tout à coup, passer à Android, en l'occurrence, ça devient
lourd,
compliqué. Si c'est à la fois ta banque, ta musique, ton machin, le truc de toute la famille, ton iCloud, tes
photos. Comme le disait Elsa, c'est ça, quand c'est tellement prise de tête de passer à un autre service que bon. Et justement, Elsa, toi qui connais bien les opérateurs que tu évoquais à l'instant, il semblerait que SFR et Bouygues aient exprimé l'envie de retarder le déploiement de la 5G en disant que on a d'autres préoccupations en ce moment, ce que je peux comprendre, que la 5G n'est pas forcément une priorité parce que la 4G fonctionne très bien et qu'on n'a pas forcément d'usage urgent pour la 5G. Je crois me souvenir en voyant tes tweets que t'es pas forcément d'accord avec cette vision. Est-ce que on pourrait pas se dire bon bah ça va, on a un peu de temps pour le déploiement de la 5G?
Non, mais ils ont fait plus que oui, ça a été des appels assez vifs au gouvernement, ouais, à repousser les enchères, parce que déjà les enchères, ça va coûter 2,17 milliards d'euros au bas mot, à diviser par 4, mais bon, il y a déjà des chèques de 350 millions d'euros à faire, ils n'ont pas trop envie de les faire, même s'il y a des échelonnements de paiement. Donc les arguments de SFR et Bouygues, qui en plus ont choisi Huawei et donc ils ne sont pas sûrs de pouvoir continuer avec Huawei pour au moins la moitié de leur réseau. Donc ils sont dans une situation qui est un peu compliquée par rapport à Orange et Free. C'est de dire, ben voilà, la 5G, on n'en a pas besoin. Regardez, les gens ont peur, ils croient que ça transmet le Covid-19, ils brûlent des antennes.
C'est effectivement ce qu'ils ont dit. Hein. Juste pour préciser, voilà, c'est pas toi qui en rajoute. C'est effectivement, ils ont dit, bon, le public ne comprend pas, il faut le temps de machin. Ils ont pris ça comme argument.
Ah non, j'en rajoute pas du tout. Je donne les vrais arguments. En synthétisant, parce que c'était très long, mais ce sont les vrais arguments qu'ils ont avancés, et en disant bah, la 4G ça fonctionne, les vrais usages de la vraie 5G sont pas là, etc. Bon, alors dans les arguments du pour la 5G, et moi je suis assez à l'écoute de ces arguments, comme tu l'as remarqué, c'est de dire mais voilà, bah, la 5G elle est là, elle est lancée en Chine, elle est lancée aux États-Unis, elle est lancée dans d'autres pays européens, et en téléphonie mobile, on sait d'expérience, enfin, toutes les infrastructures télécom d'ailleurs, que la fonction crée l'usage. C'est-à-dire que les applications 5G ne vont pas naître sans 5G, elles vont arriver avec l'infrastructure disponible. Et on commence à avoir des tests, c'est ce qu'évoquait, je vais faire un peu d'autopromo aussi, Agnès Pannier-Runacher dans une interview au Figaro, elle évoquait le lancement d'applications dans les hôpitaux à Wuhan pour monitorer à distance des malades du Covid sans interaction entre pour des prises de température, des petites opérations simples, sans intervention humaine, qui sont rendu possible par la 5G, qui est une infrastructure stable sans latence. Donc, ça, on ne peut pas le faire en France, on ne peut pas le tester si on n'a pas de réseau. C'est aussi bête que ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait ?
Ça ne marcherait pas en 4G, ça ?
On a des problèmes de latence et en fait, l'avantage de la 5G, c'est qu'on peut envoyer l'onde ciblée sur un robot, sur un accessoire, etc., de façon beaucoup plus fiable que la 4G. Et cette transmission d'informations très fine et qui doit être faite de manière très rapide, en fait, on ne sait pas faire aussi bien en 4G. Et les réseaux en 4G vont saturer. Donc il y a plein de problèmes. Et puis, on va attendre quoi ? On va attendre que toutes les applications soient développées en 5G par d'autres pays. C'est ce que disait un opérateur qui ne voulait pas être cité là-dessus. Et ensuite, ce qui nous restera, c'est aller acheter des applications 5G qui ont été développées avec des AI chinoises et à les importer quand nous, on arrivera avec notre 5G en 2022. Et eux, ils auront déjà 2 ans d'antériorité. Il y a un vrai risque.
C'est vrai que ce que je retiens surtout, c'est les usages suivent. Se développe. On ne peut pas vous dire aujourd'hui ce qu'on va faire avec la 5G. Et peut-être qu'avec la 5G, on ne fera pas grand-chose. C'est même possible, mais c'est quand même un pari très, très risqué de se dire, on s'en fout, la 4G, ça fonctionne bien, et d'y aller à reculons. Parce qu'avec la 3G, on se disait, OK, ça peut servir à ça, mais il s'est développé d'autres usages. Avec la 4G, pareil, il y a plein d'usages qu'on n'imaginait pas qui se sont développés. Et ce n'est pas des usages où on peut dire, on s'est mis à regarder de la vidéo.
On en parlait, c'est le streaming, la vidéo,
C'est pas juste. Ce que je veux dire, c'est que oui, on peut regarder de la vidéo, mais du coup, les usages vont plus loin. Ça veut dire qu'on utilise la vidéo tout le temps, on est sur Twitter tout le temps, on est sur d'autres applications tout le temps. Il y a des applications qui utilisent. Maintenant, on part du principe qu'on est connecté tout le temps avec une connexion fiable, correcte, en 4G pour la plupart des applications. Et ça, c'était pas exactement comme ça qu'on le voyait à l'époque de la 3G. On se disait, on va avoir la même 3G, mais plus rapide. C'est pas exactement ça. Pareil avec la 5G. On pourrait bidouiller des usages avec le Wi-Fi et la 4G, mais la 5G offre aussi une multiplicité d'appareils, des connexions plus rapides, plus fiables, etc. Et c'est toujours difficile, ces conversations, parce qu'on sait pas exactement, précisément, pointer du doigt ce que ça va donner. Mais il y a de fortes chances que ça donne d'autres usages, et comme tu le dis, on risque d'être en retard. Bon, après, est-ce que 6 mois changent toute l'histoire, mais on est déjà un peu en retard aussi, c'est ça qu'il faut comprendre.
Le problème, c'est qu'on est déjà en retard, parce que dans leur course à être les premiers, les Chinois et les Américains ont commencé à mettre les premiers réseaux commerciaux, donc avec des gens qui payent un abonnement pour y accéder, fin 2019, c'était octobre 2019. Mmh. Donc là, si on fait ouais, mais alors finalement, les enchères, si on les faisait en décembre pour une attribution en janvier, le temps que tout ça, ça s'affine, machin, on pourrait lancer en mars 2021. Non, ouais. Mais sérieusement.
Oui, ça commence à faire loin.
Et quand tu vois que les Allemands mettent 7 milliards d'euros sur la table, sur la 5G, pour accélérer le développement, ça a été annoncé avant-hier. Hein.
Bon,
c'est une concurrence très virtuelle parce que les réseaux sont de toute façon locaux. Alors, c'est évidemment, on pourra se comparer en disant non, regarde, les Allemands sont en avance.
C'est sur toutes les applis,
tout ce que ça va entraîner. Mais...
Les applications ne le sont pas du tout. Enfin, Spotify, c'est pas une application française, que je sache, ni YouTube.
Yop. Ouais. Mais c'est vrai que quand la 4G s'est lancée, on n'imaginait pas ce que ça allait. Enfin, on imaginait vaguement, mais ça a quand même débloqué plein de choses qu'on voyait venir, mais qui n'étaient pas du tout à l'échelle où elles étaient avant la 4G. Même sans même aller jusqu'à la vidéo, même de fait pour des Spotify, des choses comme ça, tout à coup tu réfléchis plus à des problèmes de bande passante pour télécharger du son. Et un Uber n'aurait pas existé dans la même échelle en 3G.
Exactement. Faut pas
se raconter des histoires. Donc c'est vrai qu'il y a des aspects qu'on oublie. Le problème, c'est qu'on a du mal à faire miroiter au grand public les bénéfices de la 5G, sauf à leur dire c'est de la 4G plus rapide. Donc c'est un peu... Enfin, c'est bof-bof, mais enfin, en même temps, ça ne va pas changer grand-chose ni à leur quotidien, ni à leur facture mobile. On dit, oh là là, il faut racheter un téléphone. Non, il ne faut pas racheter un téléphone. Il y a un renversement de la charge de l'innovation. En fait, ce qui va se passer, c'est que le prochain téléphone que tu achèteras, quel que soit le moment où tu l'achètes, il sera 5G par essence. Et si tu attends un peu plus que les autres et si tu ne te rues pas sur les premiers forfaits, en plus, il sera moins cher. Donc c'est un problème.
Surtout, les usages, c'est pas les vrais usages qu'on attend révolutionnaires, ils sont dans les usines, ils sont pas pour le grand public. Ils sont pour un autre exemple qu'on donnait, donc il va pas vous faire fantasmer forcément, c'est des robots dans les usines. Avec actuellement, les robots sont câblés parce qu'on ne sait pas faire ça avec de la 4G. Et quand tu as un robot, par exemple, qui monte un moteur de voiture, on va dire un moteur électrique, c'est d'abord le robot A qui intervient. Il y a une petite latence de quelques 4-5 secondes, le temps que le B intervienne, et ensuite le B intervient. Avec la 5G, on sait les faire fonctionner en même temps. C'est-à-dire que tu fais fonctionner deux mains en même temps, au lieu de faire fonctionner d'abord une main et ensuite une deuxième main. On peut les faire...
Parce qu'il y a une latence tellement faible...
Qu'est-ce qu'on fait ? On gagne du temps. Or là, on est en train de parler de réindustrialisation de l'Europe, mais si on dit qu'il faut se remettre à fabriquer les médicaments en France et qu'on imagine que c'est des gens qui vont remplir les petites capsules avec de la poudre, non, c'est pas vrai. Hein. Ça va être fait par des robots.
Autant avoir le
dernier cri en matière de robotique et de connexion de sa robotique. Sinon, ça sert à rien.
Et si les robots qui travaillent en Chine, et on va avancer après, parce que si les robots qui travaillent en Chine, ils peuvent gagner 5 secondes sur chaque échange de robots et qu'au final, ça te fait gagner, je sais pas, 20-25% de temps de production, ça, en plus des autres, des autres choses à prendre en compte, ça joue également. Et... Bon. Écoutez, puisqu'on parle de start-up et de technologie, la France a annoncé développer un fonds de 500 millions d'euros pour protéger nos startups. Comment ? Par des investissements, des prises de participation dans ces startups qui ont eu l'air, alors vous n'étiez pas parlé avant, vous n'étiez pas consulté, mais ça n'a pas eu l'air de vous convaincre cette idée. C'est pas une bonne journée pour la France dans le rendez-vous tech, parce que là non plus, vous n'êtes pas convaincu. Donc c'est le gouvernement qui, par l'intermédiaire de je ne sais plus quelle agence, investirait dans des startups pour les protéger d'une acquisition extérieure, mais avec 500 millions, ça n'a pas l'air énorme. Comment ça marcherait, Cédric, selon toi ?
Eh bien, c'est une bonne question. L'idée, c'est ça. Non, mais l'idée, c'est de dire on est face à une crise économique, donc tout à coup, forcément, ça risque de poser des problèmes sur les investissements, ça risque de mettre des startups en difficulté, ça risque de faire baisser leur valorisation, et ce qui sont des effets d'aubaine pour les gens qui, eux, ont les moyens d'investir et pour qui d'ailleurs, si tu as de l'argent aujourd'hui en tant qu'entreprise, hein, si tu es assis sur un tas d'or à la Apple, Amazon, etc., une crise, ce n'est pas le moment de réduire la voilure. Au contraire, c'est le moment où tu vas investir parce que tes investissements vont te coûter moins cher. Donc formidable. Donc, ce serait évidemment le moment de racheter des startups à bas prix pour choper des technologies intéressantes, des produits pour demain, etc. Et le problème, c'est que les acteurs qui peuvent faire ce genre de choses, pour l'essentiel, ils ne sont pas français. Voire même pas européens, j'imagine. Donc, c'est une stratégie défensive qui est de dire on va investir dans des startups, si possible pour s'inviter à leur conseil d'administration, pour avoir en gros une place autour de la table et pour empêcher d'autres de les racheter. Bon, c'est pourquoi pas.
Hein, oui,
c'est,
parce qu'une participation, on parle de je sais pas, enfin, je dis n'importe quoi, mais 5%, ils ne vont pas acheter une prise, ils ne vont pas faire une prise de participation majoritaire dans les entreprises.
On ne va pas faire à 500 millions, on ne va pas faire la nationalisation des startups, ça, soyons clairs.
Alors, c'est peut-être pas non plus 5%, parce qu'il s'agit de participation minoritaire, mais un minoritaire, ça va jusqu'à 49, hein, donc ça laisse un petit peu de marge entre les deux.
Oui, bien sûr, mais comme le disait Cédric, 500
millions... Il est dans des 15-20% plutôt quand il a une participation dans une entreprise, c'est-à-dire un peu le minimum pour avoir une place au conseil d'administration, et pour reprendre l'expression d'un journaliste que j'aime beaucoup, c'est-à-dire Cédric Ingrand, c'est Tati Daniel au conseil d'administration, quoi.
Oui, c'est celle que tu n'invites pas parce que tu sais qu'elle va faire chier tout le monde et qu'elle n'est elle est pas là pour tu vois, prendre part à la conversation, mais elle est juste là pour s'assurer que son épargne fonctionne et justement, en fait, elle est là juste pour avoir une voix. Alors, c'est pourquoi pas, hein, c'est intéressant, mais... Bon,
je veux dire. Elle sera aussi là, la tati Danielle de l'État, pour vérifier qu'on ne se fasse pas piquer toutes nos technologies par des méchants Américains ou des
méchants. Oui, mais comment on fait concrètement ? C'est-à-dire que s'il y a une start-up et qu'un Apple arrive et il dit bon, bah écoutez, voilà, moi je vous propose sur votre action 50% de plus, je rachète la boîte. L'État, avec 15%, ne peut pas s'y opposer, si ? Je ne comprends pas, ou alors je n'ai pas compris.
Alors, y a des... Soit tu fais des montages financiers, c'est rarement pour des sociétés cotées, hein. C'est plutôt pour des startups qui en sont encore à du capital d'amorçage, du capital risque, etc. Mais en 2019, je crois que c'est quoi ? En France, le capital risque, c'est plus de 700 sociétés qui ont levé près de... 5 milliards d'euros ou quelque chose de ce genre. Donc forcément 500 millions à côté. Enfin si c'était pour dire on a identifié, je sais pas, 5 sociétés, 10 sociétés, 20 sociétés sur lesquelles il faut absolument qu'il n'y ait pas d'effet d'aubaine du fait de la crise et qu'elle ne puisse pas être attrapée au vol par de grands investisseurs, bref, enfin en gros par des GAFA. Oui, ça je comprends. Après dire avec 500 millions on va protéger l'écosystème, je ne sais pas comment ça va se passer. Surtout, évidemment, ça ne peut pas se faire malgré les entreprises elles-mêmes. Ça ne peut pas se faire malgré leurs fondateurs, enfin malgré les gens qui en détiennent le capital, c'est-à-dire les fondateurs et les fonds de capital risque. Parce que il y a eu des, on a des précédents, hein, ce souvenir de Dailymotion, de tout ça, souvenez-vous, en disant non, il est hors de question que Yahoo rachète. Bah, bon, bref, résultat des courses, bah, les sociétés ont vu leur valorisation s'appauvrir. Et c'est pas un bon signal envoyé à tout le monde, parce qu'évidemment, si t'es investisseur et qu'on dit non, mais attendez, l'État va arriver avec juste 500 millions en poche et va, en gros, tu vas fixer sur place la situation des startups, tu te dis bah oui, mais attends, j'investis pourquoi, moi ? C'est-à-dire que c'est si dans 3 ans, 5 ans, 7 ans, 8 ans, je ne peux pas réaliser mon investissement, je n'ai pas envie d'y aller.
C'est exactement ce qui me fait peur. Et on a vu, bah, l'exemple de Dailymotion nous fait, comment dire, nous terrifie tous, parce que, OK, on ne l'a pas vendu à Yahoo, mais du coup, bon, peut-être que même Yahoo n'aurait pas réussi à retourner la situation. Ils n'ont pas un track record d'exemples éclatants de réussite avec les boîtes qu'ils ont rachetées.
Mais quand même. C'est un peu l'EHPAD de la tech.
Mais Dailymotion, ce n'est pas qu'ils aient connu une croissance incroyable depuis cette époque non plus. Bon, bref.
Donc, dire que ça les a aidés non plus. Non.
Disons que si c'est ciblé, pourquoi pas, ces 500 millions, ça peut aider effectivement à garder des sociétés dans le giron français pour qu'elle continue à se développer dans le giron français, mais se développer jusqu'où, ça, la question se pose. Il y a une autre question que je vais vous poser.
Moi, je trouve que c'est une dernière chose. Moi, je trouve que c'est bénéfique que la France ait une réflexion là-dessus et une stratégie sur ce genre de choses. Ça, c'est vachement bien. Et je veux dire, on va pas se plaindre à chaque fois. On va pas se plaindre des deux faces de la même pièce. On va pas dire, faut se souvenir, il y a 10 ans, on disait, ils ont pas d'idée. Le politique, c'est le degré zéro de la technologie. Ouais. Ils savent pas quoi faire. Ils sont même pas capables de regarder ce qui se passe ailleurs sur comment accompagner l'investissement, etc., etc. Aujourd'hui, on a plein de trucs. On a la BPI. Et puis surtout, on a des politiques sous le fait d'une évolution à la fois culturelle et générationnelle qui ont compris, qui savent et qui s'intéressent. Donc ça, c'est super. Après, c'est vrai que la tentation, tu vois, tout ce qu'on voit sur les appels à la souveraineté numérique, etc., ok, mais il faut évidemment pas réfléchir comme un coq sur son tas de fumier, tu vois ce que je veux dire, en disant je suis le plus haut de mon tas de fumier. Bah oui, mais c'est mon tas de fumier et il est limité aux frontières de l'Hexagone. Donc on est dans un marché européen. Il faut au moins réfléchir comme ça, et de toute façon la technologie est un marché mondial, là aussi il ne faut pas l'oublier, mais ça de toute façon c'est des choses que les fondateurs et les investisseurs vont rappeler à la puissance publique en disant merci de votre aide, mais on vous laissera rentrer si on veut.
Ouais, mais c'est aussi, enfin, on a tellement écrit, c'est, alors là je fais un peu l'avocat du diable, que c'est la Chine a un fonds souverain, le Qatar a un fonds souverain, les États-Unis le font de manière indirecte. Pourquoi est-ce que l'Europe, pourquoi est-ce que la France ne se dote pas d'un fonds souverain, que quand on commence à mettre en place un espèce d'outil qui commence à y ressembler? Bon, c'est vrai qu'on est un petit peu de mauvaise foi, mais on est peut-être aussi déçus parce qu'on aurait bien aimé que le montant soit plus élevé.
Ouais. Je crois qu'il y a de ça.
Parce qu'avec 500 millions, c'est intéressant.
Je regardais, parce qu'évidemment, tout ça est fait aussi au nom de la sauvegarde de technologies qui seraient essentielles pour l'avenir. Moi, je regardais le.
Je dis souverain.
Voilà, je regardais le top 5 des investissements de capital risque en France l'année dernière. Il n'y a pas beaucoup de technologies cruciales pour l'avenir. C'est-à-dire, tu vois, tu as Miro, qui est cette place de marché de photographes, je crois, c'est ça, non? Oui. Il y a Doctolib. Bon, c'est bien, Doctolib, mais...
Ça peut être important si ça commence à agréger des données de santé.
Ouais, ok. Il y a Insect, hein, qui est une boîte géniale pour faire de la nourriture pour animaux à base d'insectes. C'est super, mais bon, ok. Et puis, il y a Mano, le truc où tu vas acheter ta perceuse. Donc c'est bien. C'est des chouettes entreprises, parce qu'en plus, souvent, c'est du commerce et du machin, donc ça peut marcher. Mais c'est pas le truc qui te dessine la technologie du monde de demain. Donc, c'est pas mal, parce que de toute façon, avec 500 millions, ils vont pas... c'est des gens qui ont levé plus de 100 millions quasiment à chaque fois.
Effectivement.
Oui, mais c'est exactement ce que tu dis. Après, on peut cibler et dire on va pas laisser partir Data IQ complètement aux États-Unis.
Exactement, ouais. Voilà, donc on va laisser sa chance aux produits et on les jugera sur pièce.
On verra dans quelques mois. Un autre produit qu'on pourra juger sur pièce, c'est Gaia X, qui n'est pas un produit, mais alors là, pour le coup, effectivement, j'ai pas bien compris. C'est un regroupement franco-allemand pour le cloud européen, qui vise à réunir les compétences et les capacités de plusieurs grandes sociétés du cloud et de l'infrastructure du net en Europe, pour, là encore, une question de souveraineté de l'informatique. Quelle est cette initiative? Vous me l'expliquiez un petit peu avant qu'on ne commence à enregistrer. Est-ce qu'il y a un de vous deux qui veut se lancer? C'est pas évident à expliquer.
On va faire comme d'habitude. Elsa va expliquer et après je viendrai persifler.
C'est moche. C'est une coquille. C'est une enveloppe légale qui va permettre aux entreprises d'apporter aux entreprises la portabilité de leurs données sur le cloud. Aujourd'hui, il n'y a pas de RGPD pour les entreprises. Il n'y a pas de portabilité des données parce que tout ça, c'est des contrats qui sont passés entre les sociétés et puis entre les acteurs du cloud. Et dans un contrat privé, on met ce qu'on veut. Donc il y a aussi éventuellement la possibilité de ne pas pouvoir récupérer l'intégralité des données qui sont stockées quelque part quand on dit halte au jeu, moi j'irais bien faire stocker mes données ailleurs. Parce que finalement, le Doctolib dont on parlait tout à l'heure, je ne sais pas où il stocke ses données, mais un jour il va peut-être se dire si je veux aller plus loin dans mon business, il faut que mes données soient stockées chez un acteur français ou européen du cloud pour ne pas être sous le coup du Cloud Act au hasard. et ben il s'apercevra qu'il ne peut pas forcément le faire. Donc ça, c'est l'idée de Gaia-X, c'est de mettre en place une structure globale, un environnement législatif qui va permettre de faire ça. Et comme on apprend quand même un peu de notre histoire, dans leur grande intelligence, la chancellerie allemande et le gouvernement français se sont dit, tiens, on ne va pas refaire Numergie, d'ailleurs on ne se souvenait plus du nom tout à l'heure, je vous fais un peu de coulisses, et CloudWatt, donc qui étaient les acteurs du cloud souverain, on va laisser faire les acteurs privés qui savent faire. En France, on en a, hein, on a OVH, on a Dassault Systèmes, on a Atos, Capgemini, qui savent être acteurs du cloud à des degrés divers, et on va leur offrir les moyens d'apporter une réponse, mais on va leur offrir les moyens légaux d'apporter une réponse à Azure, à Amazon Web Services, etc.
Bon, ça a l'air plutôt d'être une
initiative... Je vous entends plus.
Ah,
je suis inquiète.
Si, on est là. Non, mais on t'écoute, on voit tes paroles, Elsa. Mais ça a l'air d'être plutôt une bonne initiative, un bon moyen de faire les choses, non, Cédric? Alors, Cédric, tu veux persifler?
Moi, je trouve, c'est pour ça que je dis vas-y, persifle.
je vais pas persifler, mais en tout cas, c'est une démarche plus saine que ce qu'on avait vu les fois précédentes. De fait, avec CloudWatt et Numergie, qui était une espèce de réaction épidermique sur « il faut absolument que l'on crée notre propre cloud à partir de rien ». Alors, il s'appuyait quand même sur des gens. Hein. Derrière, il y avait du Orange, il y avait… voilà. Tu vois, des trucs à la Cuero en disant « nous allons faire le Google européen ». Enfin, tout ça, c'est des trucs qui, on le sait, ne fonctionnent pas. Tu ne décrètes pas ce genre de choses. Là, l'idée, c'est en fait d'arriver à liguer ensemble des acteurs existants, que ce soit en France et aussi en Europe, et accorder, en gros, sur un set de règles qui seraient les mêmes, avec une règle qui serait celle de la portabilité. C'est-à-dire que tu saurais, toi, en tant qu'entreprise, quand tu vas aller chercher du service cloud, que tu vas pouvoir passer de l'un à l'autre sans, en gros, sans que ce soit une vraie prise de tête. Tu pourras aussi étendre, en gros, ton empreinte sur le cloud en disant, voilà, j'ai X instances, serveur machin chez EVH, je vais en prendre tant chez tel acteur allemand, avec des règles, j'ai envie de dire, légales et techniques, qui assurerait une compatibilité. Donc ça, c'est intelligent, parce qu'en plus, ça te permet d'avoir des projets qui soient à l'échelle, en évitant d'aller chez, oui, c'est ça, Google Cloud, AWS, Azure, même si aujourd'hui, il y a des choses que tu as du mal à faire si tu n'es pas chez un de ces acteurs-là.
Comme quoi? Parce que, enfin, c'est aujourd'hui, mais peut-être que plus tard...
En termes d'échelle et de présence, et de,
tu global, vois, parce que tu veux dire.
Ça reste des acteurs... Alors, locaux, c'est vrai, c'est pas vrai, parce que si t'es OVH, tu as des centres serveurs quand même déjà un peu partout.
C'est ce que j'allais dire, OVH est quand même... Pour ceux qui connaissent pas, OVH est quand même une réussite assez... Enfin, un exemple de réussite assez impressionnant, qui a commencé, moi je les ai suivis depuis le début, tous mes sites sont chez OVH depuis le lancement des émissions, et à l'époque où ils étaient un petit fournisseur d'accès, pas fournisseur d'accès, mais hébergeur à Roubaix, ils étaient déjà plus tout petits, mais vu la manière dont ils ont grandi, il n'y a pas de raison qu'ils ne puissent pas aller plus loin encore. Donc on a de l'expertise, ce genre de choses, on sait les faire.
Il faut se souvenir, quand on a lancé CloudWatt et Numergie, OVH, ça existait déjà. Et c'était déjà un énorme hébergeur. Et moi, je me souviens, parce que je connaissais déjà bien Octave Klabat, le fondateur à l'époque. Et lui, il avait la tête entre les mains en disant, mais c'est ahurissant. C'est-à-dire que les gens sont en train de dire, nous n'avons pas d'acteur du cloud, nous n'avons pas d'acteur de machin, etc. Et il dit, hello.
du coup, là, c'est avec plutôt la bonne approche.
Maintenant, ils ont entendu qu'ils étaient là, donc là, je trouve...
Il a fallu du temps, mais...
Non, mais d'accord, mais là, c'est la bonne approche, Elsa. Un petit peu de lumière, non? Tu disais que tu voulais persifler aussi.
Non, moi, je ne veux pas persifler du tout. Je voulais laisser Cédric
le faire.
C'est intéressant, parce qu'il réinvente pas la roue, et ça, c'est bien. Ouais.
Voilà. On est plutôt dans une approche qui est positive, en disant on a des acteurs qui savent faire dans le domaine, qui n'ont pas forcément l'environnement légal qui va leur permettre de venir concurrencer les gros méchants, c'est-à-dire les Américains et les Chinois dans le domaine. Donnons-leur les moyens dont ils ont besoin pour riposter et pour pouvoir concurrencer. Parce que dans la mesure où dans certains domaines, les Français sont partis plus tard ou n'ont pas proposer les mêmes services, parce qu'il n'y a pas tout à fait les mêmes services chez OVH que chez Amazon, le jour où ça sera à armes égales, eh ben, il va falloir pouvoir quitter l'un pour l'autre. Et pour que ça soit plus fluide, allons-y pour la portabilité du numéro, si je fais très très court.
Ouais. Ce qui permet à tout le monde de se développer, du coup. Bon, allez, dernière petite partie sur ce qui se passe chez nous, enfin chez les Français, pour ceux qui nous écoutent d'ailleurs. Il y a une nouvelle levée de cette proposition, enfin une nouvelle levée. On commence à reparler de la proposition assez ubuesque de contrôle d'accès à la pornographie au Parlement français, qui serait l'idée de contrôler, d'obliger les opérateurs de sites à contenu pornographique à contrôler très sévèrement l'âge des personnes qui accèdent à leur site. C'est une idée qui, en soi, on peut se dire pourquoi pas, surtout que il y a d'après les spécialistes et les sociologues, des problèmes de perception de soi et de l'acte sexuel chez les jeunes qui sont, influencés par ce qu'ils voient et qui est tellement accessible et tellement facilement accessible sur le net. Mais le problème, c'est le problème de la mise en place, de comment on va faire pour mettre en place ce contrôle de l'âge, parce que sans rentrer dans les détails, on sait que c'est toujours très 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 compliqué à faire. Je vais laisser ça là pour le moment, parce qu'on n'est pas dans des délibérations précises sur les modalités, mais on l'a vu dans les autres pays, c'est toujours très compliqué, et la plupart de ceux qui s'y sont essayés, après des tentatives, limite démagogiques au niveau politique, on s'est aperçu au moment d'implémenter que c'était pas facile du tout, et donc, dans le cas de l'Angleterre notamment, ils ont laissé tomber, simplement parce que ça veut dire on va demander aux gens de déclarer qu'ils veulent aller sur des sites à contenu pornographique, et ça c'est quelque chose qui est évidemment pour la question de la protection de la vie privée, en fonction des implémentations, mais c'est assez clair, c'est difficile à demander, quoi, je comprends tout à fait.
C'est une mission difficile, hein. C'est rare les sites qui vérifient de manière définitive ton identité. Moi, j'en connais que deux, c'est des sites du service public, les impôts par exemple, ce genre de choses. Et encore, ils le font au travers de la création d'un compte. Alors, ils ont quand même, ils en ont un peu sous le pied, mais il y en a qui sont quand même encore réduits à t'envoyer des mots de passe par courrier. Et puis, certaines néobanques qui, elles, vont le faire par une visio avec quelqu'un qui va t'appeler, à qui tu vas montrer ta pièce d'identité. Enfin, c'est fastidieux. C'est-à-dire que,
On a imaginé aussi des jetons, des numéros de code à acheter dans un bureau de tabac, par exemple, et tu dois rentrer un numéro de code quand tu veux consulter le site, mais du coup, tu vas dans le tabac et tu vas dire à ton commerçant,
tu es en train de définition de fastidieux.
C'est pas juste fastidieux. Tu vas dans ton tabac et tu demandes à ton buraliste, je voudrais un jeton d'accès à un site porno, s'il vous plaît, monsieur.
J'ai tellement de sketchs des Monty Python qui me reviennent en tête que c'est, c'est terrible. C'est difficile d'y croire, et d'ailleurs, c'est amusant parce qu'il y a eu un gros débat, c'est ça, en Angleterre. Parce qu'eux, ils disaient non seulement on va forcer à l'identification, mais tous ceux qui ne le feront pas seront bloqués sur l'Internet grand-breton. Et ça n'a pas marché. Qu'ils sont après, de fait, posés plein de questions sur. C'est-à-dire que tu demandes à des gens qui gèrent pas déjà trop vraiment un fichier d'utilisateur parce que ils vont gérer des fichiers nominatifs avec des indices. Oh là 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 là. Enfin bon, la sécurité de ces données-là, ce qui peut en être fait après. Imagine qu'en plus, si tu agrèges dans ces fichiers-là, ce que les gens vont regarder. C'est pas très RGPD en fait. Là, il y a un vrai, vrai problème sur. La question du contrôle d'accès à ces sites-là, mais aussi à plein d'autres, parce qu'il n'y a pas que cela, c'est un truc qui est vieux comme le web. Pour moi, les solutions, elles sont locales, en fait. Pour moi, les solutions, c'est toi en tant que parent, en fait. Tu ne peux pas vraiment te décharger de ça en disant la puissance publique va s'assurer que...
Je suis d'accord, mais je suis pas certain non plus. Enfin oui, c'est toi en tant que parent ça va être très difficile de contrôler, surtout à partir d'un certain âge, parce qu'il y aura toujours moyen de se démerder pour accéder à ces sites.
Oh yeah.
Par contre, il faut expliquer comment l'appréhender. Quoi.
Ils sont encore petits, ces enfants Cédric, mais moi j'ai un peu plus vieux et c'est pas facile de contrôler. Mais c'est vrai que la pédagogie, c'est le.
C'est ça, oui.
Enfin, moi j'ai la faiblesse de croire que c'est quand même le meilleur moyen d'expliquer que c'est pas la vraie vie. Après, alors soit on dit qu'on est la Chine et puis on fait un truc totalitaire et on dit on blackliste certains sites et puis là c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, on sait pas jusqu'où ça va. Mais le coup du déclaratif, un gamin de 12 ans c'est le contourner, hein, donc franchement
oui, les codes qui se revendent sous le manteau dans la cour de récré, bon bref.
Et puis en plus évidemment la crainte c'est de dire non mais attendez, l'internet il n'est pas français, il n'est pas européen, il est mondial. Donc, en gros, on va juste ouvrir la porte à plein de services qui seront dans des géographies où ils n'auront pas à se conformer à ce genre de choses. Et voilà, exotiques, ou pas si exotiques que ça, mais juste pas européennes, par exemple. Et tout à coup, en fait, on n'aura rien résolu à rien. On aura juste mis en danger notre industrie pornographique européenne. Mais voilà.
Ça, on s'en fout un peu, mais si c'est oui, surtout bien sûr, les gens ce que qui travaillent pour cette industrie qui serait en danger, quoi.
Voilà, et on n'aura pas vraiment trouvé une solution, et surtout, on aura déplacé le trafic vers des gens sur lesquels, pour le coup, on n'a absolument aucune emprise. Donc avec qui on peut même pas discuter. Le danger, il est toujours là quand tu fais ce genre de choses. Et là aussi, c'est vieux comme le web, je pense pas que ça va beaucoup évoluer, mais c'est vrai, la capacité des jeunes générations à passer au travers de tous les filtres que tu peux mettre en place. Je veux dire, la phrase préférée de mon fils, 7 ans, c'est « It's okay, Dad, I know your code ». Voilà.
Bon, bah écoutez, sur ces bons mots d'un jeune enfant de 7 ans, on va faire une petite pause. Je vais vous dire deux choses avant de vous parler de Patreon. D'abord, on va parler dans un instant de Facebook et des problèmes qui agitent la toile en écho aux problèmes qui agitent le monde un petit peu.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Et on va parler vraiment, enfin, nous, on est trois personnes relativement privilégiées. On va parler de ces problèmes qui nous touchent, j'imagine, relativement peu. Ça ne veut pas dire qu'on n'en est pas conscient. J'aimerais vous encourager, encore une fois, à aller écouter le Phileas Club, qui est un autre podcast que je fais, où j'ai parlé la semaine dernière avec un habitant de Minnesota. On a discuté de son expérience, du contexte de sa vie, et qu'il nous explique. Alors, c'est une émission en anglais, hein, je suis désolé, mais ça nous explique un petit peu d'où il vient, et ce qu'il fait, et ce qu'il vit. Et j'espère, si tout va bien, demain, enregistrer un autre épisode. Donc demain, on est mardi aujourd'hui, mercredi, un autre épisode du Phileas Club. Sans doute une partie en anglais et une partie en français, pour le coup, parce que je vais parler à des personnes de couleur française. Et quand je dis je vais parler, je vais les écouter, comme c'était le cas avec l'épisode sur l'habitant de Minnesota. Donc, même si on va parler de tout ça, on va en parler sur l'aspect tech, et surtout, je pense que si c'est un problème qui vous préoccupe, peut-être qu'il faut aller loucher du côté d'autres sources, je vous y encouragerai. Et donc, pour ma part, ma contribution, c'est le Phileas Club. Je peux mettre le lien dans les notes de l'émission, mais Phileas Club, qui est une émission anglophone que je fais depuis très longtemps, dans laquelle, pour les derniers épisodes donc, je traite de ce sujet. Et donc, Patreon, c'est vous qui soutenez cette émission-ci, le Rendez-vous Tech, et je vous en suis infiniment reconnaissant. C'est grâce à vous que cette émission fonctionne, que cette émission peut exister. Donc, si vous appréciez, vous faites, on parlait des magazines qui se vendent dans le kiosque ou sous le manteau, et ben écoutez, c'est un petit peu comme à l'époque, si ça vous évoque quelque chose quand vous alliez acheter vos Tilt et autres Gen 4 ou plus plus récent, hein, possiblement, eh ben, vous, en plus de la publicité que vous aviez dans les magazines, ben, vous alliez payer vos quelques francs ou quelques euros à votre kiosquier. Et ben là, vous avez une solution encore plus cool. En plus du fait que vous pouvez soutenir financièrement l'émission, ça vous enlève la pub, ça vous enlève même ce petit laïus au milieu de l'émission. C'est en plus de ça ce qui permet à l'émission d'avancer et l'émission d'être de la qualité, j'espère, que vous appréciez, puisque vous l'écoutez, j'espère, depuis un petit moment. Et si c'est le cas, eh ben, patreon.com/rdvtech. À chaque fois, mon argument, enfin l'un de mes arguments les plus forts, c'est pourquoi pas ? Hein, franchement, posez-vous la question, pourquoi pas ? Pourquoi ne pas soutenir l'émission ? Vous l'écoutez depuis un moment, vous l'appréciez, vous la trouvez intéressante, distrayante, parfois drôle même, peut-être. Eh ben, pourquoi pas la soutenir ? Si vous n'avez pas de bonne réponse à cette question, et il y a plein de bonnes réponses, mais si vous n'en avez pas, eh ben, peut-être dirigez-vous vers patreon.com/rdvtech et regardez tous les bonus en plus que tout ça peut offrir. Je vous y encourage et je vous remercie, vous tous qui le faites déjà. Bon, donc, la partie un petit peu moins drôle de l'émission, d'abord, est-ce qu'on parle de Facebook d'abord ou est-ce qu'on parle du reste de la tech d'abord ? Je vais dire peut-être le reste de la tech pour dire que on a vu énormément de messages de nombreux acteurs de la tech qui disent « Ah, Black Lives Matter, c'est vraiment pas cool ce qui se passe en ce moment, nous soutenons les efforts qui visent à réduire les inégalités ». Et évidemment, de nombreuses personnes se sont gratté la tête une demi-seconde et ont dit « Vous soutenez, mais alors, est-ce que vous soutenez comment ?» C'est-à-dire que vous mettez un message sur votre page Twitter, et après, il y a quoi ? Parce que ça fait quand même un bon moment qu'on s'est rendu compte que les problèmes d'inégalité se sont vraiment fait jour dans cette industrie. Et on a vu qu'avec tous les rapports qu'ils émettent, ces géants de la tech, tous les ans, eh ben les choses ont très très peu évolué. On parle de moins d'1% de représentativité dans une bonne partie de ces géants de la tech. On a vu aussi des gens qui critiquent des sociétés comme Amazon notamment, qui fournit du matériel de reconnaissance faciale, alors qu'on sait que le matériel de reconnaissance faciale, les technologies sont biaisées pour tout un tas de raisons et biaisées en défaveur des personnes de couleur. Donc effectivement, on est en droit de se poser la question. Il y a, plutôt que de rester dans le négatif, quelques initiatives qui ont été intéressantes dans ce domaine. Alexis Ohanian, notamment, qui est l'un des fondateurs de Reddit, a annoncé qu'il démissionnait du board de Reddit et qu'il voulait laisser sa place à un candidat noir pour entrer au board de Reddit. Il a aussi fait, il a donné de l'argent, etc. Il y a des choses comme Google Assistant et Siri qui répondent aux questions sur Black Lives Matter et All Lives Matter, qui est la réponse que donnent certains opposants généralement en disant bah, « c'est pas que les vies des personnes de couleur qui sont importantes, c'est les vies de tout le monde, donc pourquoi ?» Bon, c'est un argument qu'on entend tout le temps, qui vise à discréditer en fait les prises de parole et les tentatives de mise en lumière des problèmes, des inégalités qu'on voit un petit peu partout.
En français, on appelle ça « noyer le poisson ».
Noyer le poisson un petit peu, voilà. On a des sociétés de jeux vidéo comme Activision, qui est pourtant pas connue pour son activisme, merci, social, qui a fait des choses qui sont pas inintéressantes. Ils ont mis des panneaux avant chaque partie de jeu en ligne multijoueur, des panneaux disant Black Lives Matter et expliquant la chose. Alors, ça peut là encore sembler être une simple déclaration d'intention. Moi, je dirais, quand on met la chose devant les yeux de très nombreux joueurs, souvent jeunes, c'est un petit peu plus efficace que de mettre un message sur Twitter. En tout cas, ça amène l'attention et ça dit aux gens, bah, les gens qui font ce jeu que vous aimez, ils sont... ils soutiennent ce mouvement, et ça va plus loin que simplement mettre un message corporate sur Twitter, je trouve. Ils ont aussi déclaré qu'ils allaient faire plus, et peut-être qu'il est temps, mais faire plus pour sanctionner et détecter les comportements racistes dans leurs jeux, etc., etc. Donc il y en a qui font des choses. Alors évidemment, ce qu'ils font, c'est pas qu'est-ce qu'on va faire ? On va résoudre le racisme. Ok, non. Alors oui, ok, évidemment, c'est pas leur rôle non plus de tout à coup résoudre le racisme, mais ce qu'ils peuvent faire dans ces domaines. Certains peuvent être intéressants. Je suis curieux quelle est votre approche de la chose. Et encore une fois, on en parle de notre position à nous, mais quelle est votre approche de la chose ? Est-ce que les sociétés tech sont un petit peu hypocrites de dire ce genre de choses ? On parle de Black Lives Matter, mais on pourrait parler de tous ces mouvements sociaux qu'on voit depuis des années, sur lesquels ils s'expriment, mais est-ce qu'ils font des choses ? Évidemment, ce n'est pas une position facile pour eux, mais...
Non, en fait, il y a une espèce d'exigence de citoyenneté de leur part. Et alors, c'est plus facile dans des sociétés qui sont incarnées. On l'a vu avec Microsoft, avec Satya Nadella, qui avait un message vraiment fort là-dessus. On l'a vu avec Tim Cook. Alors, Satya Nadella, c'est quelqu'un qui a peut-être dû souffrir de racisme à un moment. Tim Cook moins, mais lui, il est né dans l'Alabama, donc il connaît la chose au moins de l'autre côté.
Il est homosexuel, Tim Cook, donc il a aussi cet aspect des inégalités qu'il a dû vivre, j'imagine. Quelque part.
Ah oui, tu veux, oui. Alors là, j'en étais pas là, je restais sur Black Lives. Mais donc ça, c'est autre chose. Et c'est un truc très américain en plus, c'est-à-dire que tu le vois aussi avec le degré de débat, j'ai envie de dire public, à l'intérieur de ces entreprises, parce qu'évidemment, ces entreprises, elles se définissent aussi comme nous ne sommes pas l'entreprise de papa, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que tout à coup, on l'a vu sur plein d'affaires sociales, sur des histoires d'identité sexuelle, sur plein de choses, où tout à coup, il y avait des grands débats publics à l'intérieur d'un Google, par exemple, évidemment, sur la représentativité. Il y a des trucs qui sont, j'ai envie de dire, pas encore vraiment applicables chez nous. Et puis c'est vrai que là, c'est l'Amérique qui tente pour la xème fois de solder, mais d'essayer de résoudre son problème de racisme endémique. Je veux dire, ça fait 400 ans que ça dure, ça va pas s'éteindre comme ça, même en quelques manifestations, et même si elles sont massives et tout ça. Donc c'est bien que ces entreprises aient des prises de position, ça je trouve ça positif. Après, c'est toujours jusqu'où aller, parce qu'évidemment après, il faut agir, quoi. Eux ont des outils, hein, tu vois, comme l'affirmative action, enfin comme la discrimination positive, comme on appellerait ça chez nous, mais c'est des trucs qui marchent aux États-Unis parce qu'en plus, les gens s'identifient plus à leur communauté d'origine. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on parle de soi chez eux. On dit, voilà, my community. Alors que chez nous, les gens qui parlent de leur communauté, c'est des youtubeurs dans l'ensemble. Je caricature bien évidemment. Et puis chez eux, enfin tu vois, chez eux, on fait des statistiques sur n'importe quel formulaire. On te dit, are you Caucasian, Black, Hispanic, machin. Chez nous, c'est interdit. Enfin, c'est-à-dire que ils ont même de facilité à chiffrer les choses que chez nous, parce que chez nous, on estime, et c'est un autre projet de société. J'ai envie de dire que le projet, c'est plutôt l'assimilation. Et sur le papier, on est tous avec les mêmes droits et au fond, on est tous pareils.
Ouais, sur le papier, parce que ça ne veut pas dire...
Il y a d'autres défauts, parce que ça sert aussi à passer sous le tapis des problèmes qu'on n'arrive pas à régler du coup. Ouais. Mais est-ce que la solution
on s'écarte
est meilleure
un peu
pour
du
autant
sujet,
Non, je pense que les deux ont leur...
Elsa.
Pardon ?
Non, vas-y, on s'écarte un peu du sujet.
Je pense que le sujet des entreprises américaines de la tech, des entreprises, enfin, il y a le sujet entreprise en général. Pourquoi est-ce que Google devrait être plus vertueux que Ford en termes de discrimination ? Parce que Google, comme Facebook, comme toutes les entreprises de la tech, Apple avec, sont un peu arrivées sur le marché avec un mantra, c'est on va changer le monde et on va l'améliorer. Bah là, on a envie de leur dire, OK, allez-y, changez le monde, améliorez-le. Et il y a une espèce de désillusion générale qui arrive quand on s'aperçoit que finalement, son employeur génial qui nous avait dit qu'il allait changer le monde et qu'il va l'améliorer, n'a pas tellement amélioré, que c'est toujours des pour l'essentiel des hommes qui sont à la tête de ces entreprises. Donc, on peut aussi faire du féminisme, mais ce n'est pas le sujet. Qu'ils sont dans l'ensemble blancs, éventuellement indiens. Oula, ça c'était le comble de l'audace.
Pas éventuellement, beaucoup. Moi, j'observais il y a quelques années, j'avais fait un tweet un jour là-dessus en disant si quelqu'un vient... Ah bah vas-y.
Il y a quand même un problème à nommer plus en avant des Afro-Américains. Alors, est-ce qu'il y en a suffisamment dans ces domaines ? Le problème, il est peut-être aussi dans les écoles d'ingénieurs. Est-ce qu'il y a des mecs qui sont formés ? Est-ce qu'ils ont accès à ces études pour arriver à ces postes ? Enfin, jusqu'où on fait démarrer la prise en compte ? Est-ce qu'il y a un vrai plafond de verre aux États-Unis dans ces entreprises ? Et moi, je pense que là où les sociétés de la tech sont plus sous le feu des projecteurs que d'autres, c'est que déjà, elles donnent la parole aux gens, puisque Facebook, Twitter, sauf si j'ai raté un truc, c'est des réseaux sociaux, donc leur raison d'être, c'est l'expression, et que un de leurs mojos, je le répète, c'est de dire on va améliorer le monde.
Enfin, je suis d'accord sur le fait que le filtre des écoles est un vrai souci. C'est, moi, à chaque fois, je ressors la citation de Charles de Gaulle qui disait le problème des généraux, si les généraux sont tous des cons, c'est parce qu'on les recrute chez les colonels. Et que tu ne peux pas améliorer l'échantillon quand l'échantillon qui t'est présenté, tu vois ce que je veux dire. Et il y a aussi un vrai problème, mais ça aussi, c'est des trucs qui vont évoluer, sur le fait que l'excellence universitaire aux États-Unis est une excellence qui se paye extrêmement cher. Si tu veux aller faire n'importe quelle fac de l'Ivy League, c'est-à-dire, tu vois, Princeton, Stanford, Harvard, etc., ça te coûte une absolue fortune que ta famille n'a pas, si elle vient d'un milieu modeste, voire même de la classe moyenne. Donc c'est vrai que la représentativité à l'intérieur des entreprises, à l'intérieur des géants de la Silicon Valley, à mon avis, elle est quand même pas loin de la représentativité d'une promotion de Stanford. Et donc ça veut dire qu'il y a aussi des choses à régler en amont. Là, pour le coup, il y a des choses sur lesquelles on se retrouve en France. C'est même punition, même motif. Moi, pour avoir vu ça d'assez près, par exemple, sur ce qu'on appelait la représentativité de la société dans les médias, dans les rédactions, ils avaient exactement le même souci, c'est de dire si t'es une grande rédaction, tu recrutes chez des gens qui ont fait un cursus, la voie royale entre guillemets, pour autant qu'il y ait une voie royale en journalisme, mais c'est-à-dire Sciences Po et CFJ par exemple, tu regardes ces promotions-là, elles sont pas aux trois quarts issues de la minorité, loin de là.
Black Blamber, quoi.
Elles sont un peu et elles sont de plus en plus, mais c'est beaucoup plus lent qu'on pourrait le vouloir. Donc après, tu peux déclencher à côté des actions plus positives, un peu comme l'a fait Sciences Po, mais on s'éloigne considérablement du sujet. Enfin bref, la question, c'est de savoir pourquoi est-ce que ces entreprises-là de la tech ont envie d'en faire plus. Et je suis d'accord avec Elsa, c'est parce que dans leur charte, dans leur contrat moral avec le monde, elles disent, nous, on va changer le monde et on va laisser derrière nous un monde meilleur. Donc ça leur donne des obligations qui ne sont pas forcément faciles à gérer au quotidien.
On a un autre exemple, c'est IBM qui a décidé de ne plus offrir leurs outils de reconnaissance faciale. Je parlais de ça tout à l'heure avec Amazon. IBM a dit, désolé, on va plus offrir nos outils de reconnaissance faciale, justement parce qu'ils sont biaisés. Et je crois qu'il y a effectivement dans cette obligation pas d'activisme, mais de responsabilité sociale qu'on voit aux États-Unis. J'ai l'impression qu'elle est moins présente chez nous en France, peut-être en Europe,
nous, on n'a pas de Google, de Facebook et d'Apple.
Non, mais nous, on a d'autres...
Juste, on a aussi un petit peu moins de problèmes que les Américains, parce qu'on va me dire, t'es une fille blanche, donc c'est plus facile, mais il y a quand même un peu moins de racisme prégnant dans la société française. Il y a 50 ans, il n'y avait pas des bus séparés pour les Blancs et pour les Noirs en France.
C'est-à-dire que ce qui était encore
le cas aux États-Unis. Enfin, dans le sud américain, il y a quand même un racisme qui est très fortement ancré. C'est une société qui a été ségrégationniste très longtemps.
Ouais.
Ils n'ont pas inventé le concept d'apartheid, mais pas loin. Donc, il y a cette antériorité. Et ce que je voudrais dire, c'est qu'on parle des géants.
Je veux juste préciser un truc, Elsa.
Et qui fait beaucoup pour la promotion de la communauté d'origine africaine, notamment, déjà parce qu'ils sont présents en Afrique, et que Stéphane Richard a nommé un patron pour Orange Afrique génial, et donc ça peut se faire, on peut y arriver.
Ouais. Elsa, je vais juste dire que je pense que l'un des dangers quand on est sur ces sujets, c'est de parler au nom des personnes en question. Et je voudrais vraiment rappeler que, enfin j'espère que je vais faire l'épisode demain, mais mon initiative pour... Parce que pour vous dire, écoutez, je vais être totalement transparent. C'est pas des sujets sur lesquels je suis très expert. C'est des sujets que je suis pas forcément qualifié pour couvrir. Mais la chose que je sais, c'est que la tentation de parler et d'expliquer pour les gens est grande. Et
je veux pas expliquer pour les gens.
Non, bien sûr.
La
mais
la situation française n'est pas la situation américaine.
Je suis d'accord.
En fait, tu es en train de dire qu'on est en train de faire du white-splaining.
Bon, un petit peu, mais surtout le fait que, évidemment, je suis complètement d'accord avec toi. Aux États-Unis, ils ont des flics qui sont armés jusqu'aux dents, qui tirent avant de poser des questions. Les problèmes ne sont pas les mêmes. Mais
de préférence, si tu es sur les Noirs d'ailleurs, mais ça, on a bien compris qu'ils préféraient viser les personnes de couleur que les autres, les flics américains qui se prennent pour des cow-boys.
Disons que ce que je veux pas.
Un petit peu différent.
Ce que je veux pas, c'est que certains comprennent, donc tout va bien ici. Tu vois ?
Non.
Je sais que c'est pas ce que tu dis.
C'est pas la même situation.
Je sais que c'est pas ce que tu dis, mais je pense que certains pourraient l'entendre de cette manière, et peut-être que certains voudraient l'entendre de cette manière. Donc je le mentionne parce que je sais que si je le fais pas, on va me le reprocher, mais on va le mentionner, et je pense qu'on n'aura pas tort. Donc.
Et c'est pour ça aussi que je dis qu'il faut aussi souligner les bonnes initiatives et que Orange est une des rares entreprises qui a fait cet effort-là et qui œuvre aussi à mettre en place une politique qui permet de nommer des gens qui sont représentatifs des clients qu'ils sont censés adresser.
Bon, il y a un autre élément à cette conversation qu'évoquait d'ailleurs Elsa à l'instant, enfin pas à l'instant mais il y a quelques minutes, la question du rôle des grandes sociétés de réseaux sociaux et donc de communication qui nous aident à parler au monde et notamment Twitter, Snapchat, Instagram, etc. et bien sûr l'énorme 100 pound gorilla Facebook.
TikTok.
Alors, mais TikTok, figure-toi que TikTok, les Américains, les enfants américains de 4 à 15 ans passent autant de temps sur TikTok que sur YouTube. Croissance de massif, 50%, hein. C'est incroyable. Mais du coup, TikTok est aussi dans cette catégorie, sans doute. Mais on s'intéresse d'un petit peu plus près à Facebook. Et du coup, je me re-retourne vers Elsa parce que Facebook est la société qui a décidé de ne pas toucher aux propos du président Trump spécifiquement. Snapchat a limité la portée des messages de Trump. Facebook a décidé de ne rien toucher. Mark Zuckerberg a décidé donc que ce n'était pas leur rôle de modifier ses communications. Comme je le disais, on en parlait beaucoup la semaine dernière. Je pense que jusqu'à il y a deux semaines, l'idée se défendait. Je pense qu'elle est beaucoup plus critiquée aujourd'hui. Personnellement, moi, je suis un petit peu du camp de ceux qui disent peut-être qu'il faut, même si ça ouvre la boîte de Pandore, sur ce point, faire quelque chose. Mais on a vu énormément de gens critiquer Mark Zuckerberg directement pour ce qu'il considère comme de l'inaction. Elsa, est-ce que c'est de l'inaction ou est-ce que c'est de la sagesse ? C'est possible aussi, parce que c'est vraiment une boîte de Pandore. Je sais pas, là, on est dans l'éditorial, mais l'opinion, quoi. Qu'est-ce que tu penses de son attitude ?
Moi, je pense qu'il est juste dans une attitude prudente, en fait, parce que pour une fois qu'il ne se fait pas taper dessus par le gouvernement américain, il a fait suffisamment de bêtises au préalable, il essaye de ne pas se mettre dans le débat, mais dans le débat, il va y être. Mais pour moi, ça a été une espèce de position de repli et de protection sur soi, en disant peut-être que si je ne bouge pas là-dessus, pour une fois, je ne vais pas me faire taper dessus. Je ne vois pas d'autre explication à part la crainte de mal faire et de se retrouver sous le coup d'une nouvelle loi ou de quelque chose, parce qu'ils ont quand même pas mal de choses qui leur pendonnaient. Hein. On veut casser leur monopole. Eux, ce n'est pas les démanteler, c'est plutôt côté Amazon qu'il y a des menaces. Mais donc, ça serait de dire... Enfin, moi, ce que je comprends, c'est ce que j'imagine plutôt, c'est finalement... la meilleure défense, ça serait de se taire aujourd'hui et de dire bah non. Et puis en plus, ne pas être vu comme un média. On maîtrise pas nos contenus. C'est aussi tout le truc de Facebook. C'est très très américain et juridique comme position. C'est de dire, si on dit qu'on n'est pas responsable des contenus qui sont chez nous, on ne peut pas nous attaquer pour les contenus qui sont chez nous. Et donc, on ne censure pas et chacun fait ce qu'il veut. Je ne sais pas.
C'est vrai que bah, pour le coup, il a évité le courroux du gouvernement américain. C'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'il l'a fait, c'est pas impossible. Mais tout le reste du monde lui est tombé dessus. Et j'ai rarement vu autant de critiques unanimes sur. Oui, on veut même sur Facebook, et pourtant Dieu sait qu'ils en ont eu des critiques à leur encontre. Mais s'il voulait rester hors du débat, c'est raté, parce que pour le coup, on ne parle plus que de lui. En interne, il semblerait que ça soit un sujet de détresse fréquent chez des employés qui voudraient que Zuckerberg contrôle un petit peu plus activement les messages, notamment de Trump. Alors, on a parlé de tout ça, de la section 230, etc., dans l'épisode précédent. Je vous invite à aller l'écouter si vous voulez les détails techniques et légaux sur ce point. Mais et quand je parle de boîte de Pandore, c'est certainement le cas. Mais aussi, il y a un cas tellement particulier avec Trump qui met de l'huile sur le feu et qui n'arrête pas de mettre de l'huile sur le feu, que c'est difficile de rester dans la position dans laquelle est Zuckerberg. Là encore, même question à Cédric. Est-ce que c'est c'est une position qui est compréhensible, qui est défendable, ou est-ce que tu penses que là, ça va tellement loin qu'il faudrait qu'il fasse quelque chose? Et ensuite, les conséquences sont difficiles à gérer, mais je ne sais pas non plus qu'il faut, s'il y a une idée juste et une idée fausse dans tout ça. Mais...
Disons que Zuckerberg n'a jamais eu envie de toucher à rien, tu vois ce que je veux dire. Et plus il parle, et moins il se passe quoi que ce soit dans l'ensemble. Non, il est dans une situation qui est intenable. Twitter a eu le même souci. On leur disait, non mais attendez, si Donald Trump était un utilisateur lambda, vous auriez fermé son compte depuis bien longtemps. Et évidemment, ils étaient embêtés en disant, oui, mais bon, comprenez, c'est un peu, ça nous mettrait... Enfin bref, et ils ont trouvé la solution, tu vois, en avertissant sur le contenu de certains posts, etc. Alors ça leur a valu une tempête, mais finalement qui n'a pas duré si longtemps que ça. Trump a signé un executive order, machin, mais qui n'a absolument aucune portée légal. Enfin voilà, il a gesticulé et il est passé à la suite. Et pendant ce temps-là, Facebook dit Zuckerberg a parlé à ses employés en reprenant des posts de Trump et en disant oui, non mais là, c'est pas un appel au suprémacistes blancs, c'est pas. Machin. Il était dans une espèce de position d'excuse alors qu'il sait bien quand même que tout ça est extrêmement inflammatoire et que, en tout cas, de manière évidente, ça fait plus partie du problème que de la solution. Et il n'a pas envie d'y toucher. Alors, je comprends qu'il y a un aspect de la question qui est très difficile à gérer, qui est de dire si on se met à émettre des jugements de valeur sur les intentions d'un poste, ça nous met à un moment dans une position d'éditeur. Et nous, on est une plateforme, on ne peut pas avoir la responsabilité d'un éditeur sur chacun des postes. Mais en même temps, je veux dire, ils ont de fait des brigades de modérateurs qui le font bien pour tout ce qui tient de la pornographie, de certains appels à la violence, du terrorisme et du reste.
Ils ont des algorithmes qui font de la aussi. Sélection de ce que tu vas voir et de ce que tu ne vas pas voir. Il y a même, dans le cadre de Facebook, c'est ironique parce qu'ils sont beaucoup plus actifs chez Facebook, ou en tout cas ils l'étaient jusqu'à il y a quelques semaines, où c'était plutôt Twitter qui était du côté du laisser-faire. Du côté de Facebook, ils avaient des contenus qui étaient sciemment moins montrés et moins diffusés malgré leur popularité parce qu'ils étaient jugés comme controversés ou inflammatoires, je fais un anglicisme. Donc Facebook, d'une certaine manière, a déjà cette patte éditoriale pour contrer la désinformation et ce type de contenu. Donc oui, la défense, pour moi, tient difficilement. On est vraiment dans le cas spécifique du président, quoi.
Mais je pense que de toute façon, toutes les décisions que prend Mark Zuckerberg, il les prend avec un œil sur son cours de bourse. D'ailleurs, ça fait longtemps, si on les prend une par une, on aboutit à ça. Et du coup, il se dit, et il a raison, que rentrer dans une guerre ouverte avec le président des États-Unis, c'est pas bon pour le business. ça va le mettre en porte-à-faux par rapport à ses investisseurs, etc. Mais ça reste quand même une vision de très courte vue quand on est à la tête de quelque chose qui d'abord n'est pas seulement américain. Donc de toute façon, quoi qu'il ait fait jusque-là, et c'est surtout ce qu'il n'a pas fait d'ailleurs, c'est de toute façon inexcusable. Parce que c'est ne pas assumer la responsabilité que lui donne la position dans laquelle il est. Et ça se voit, hein, maintenant il y a des espèces de pétitions ou de textes communs signés par des modérateurs de Facebook. Il y a 140 scientifiques que pourtant Zuckerberg finance, qui lui ont fait une lettre ouverte en disant que voilà, c'est pas possible de laisser passer des trucs qui sont de la désinformation et de comme tu disais, de l'inflammation pure.
Je vais expliquer.
À un moment, il va falloir qu'il réagisse, mais le problème, c'est qu'il n'est pas, câblé comme ça. Il n'a pas envie.
Il y a deux choses.
Ce truc est son jouet.
Il y a deux choses à mentionner là-dessus. D'une part, les décisions sont prises par des comités de décision réunis autour de Zuckerberg, et dans les discussions qu'il y avait avec les employés, il y a eu un moment assez, malaisant où un des employés demandait « Mais est-ce qu'il y a des personnes de couleur dans vos comités qui ont pris cette décision ?» Et lui disait je crois qu'il y avait Chris... attendez, Chris, il n'était pas là, et c'était vraiment... Enfin, là, c'est... Bref. Et l'autre chose, c'est que c'est cette fondation dont 140 scientifiques ont écrit une lettre ouverte à Facebook qui est financée par l'une de leurs fondations. C'est l'une de leurs fondations. En fait, ce qu'ils disent, c'est que le fait de cacher les contenus, contrairement à ce qu'on pensait depuis un certain temps, le fait de cacher les contenus est moins efficace que le fait de les afficher avec un label, et de mettre un label qui dit « voilà, ce contenu est contesté ». Et donc, le fait de le cacher n'est pas, d'après leurs études à eux, peut-être que les études changeront après, mais comme dans tout, on est bien obligé de se tenir au consensus scientifique du moment, et bien là, ils disent « en fait, plus efficace pour faire reculer la désinformation, c'est de montrer le contenu en le labellisant ». Et donc, c'est ce que se refuse à faire Zuckerberg. Et il y a vraiment... Évidemment, le cas du président Trump est incroyablement spécifique parce qu'il est dans une position... Il y a des gens qui me disent « Ah, mais Trump, c'est le seul qui dit les choses clairement, qui se tient à son programme, ce genre de choses. » c'est mieux que d'avoir des politiciens qui mentent tout le temps. Même sans faire de la politique, et là, on parle de questions tech, hein, des sujets qui sont amenés par la tech, c'est pas des questions de politique partisane, je vous l'assure, peut-être que vous ne me croirez pas, mais vraiment, c'est comme ça que je le considère. Trump n'est pas en train de faire ça pour faire pour être droit dans ses bottes par rapport à ce qu'il disait avant. Trump est en train de faire ça comme n'importe quel autre homme politique, parce qu'il y a une élection en fin d'année et qu'il est en train d'essayer de se faire réélire. Et ce faisant, à mon sens, là je suis un tout petit peu dans l'analyse, mais enfin il ne faut pas aller très très loin pour comprendre ce point de vue, admettons même qu'il se tienne à ses idéaux énoncés dans sa campagne qui n'avaient rien à voir avec les réalités de la situation, il est dans une position où sa responsabilité est immense, et là j'en viens à la partie analyse, il se défausse de sa responsabilité. On parlait de la responsabilité des réseaux sociaux, elle est évidemment grande, mais Trump est dans une position totalement unique parce qu'il se défausse de sa responsabilité d'unification du pays. D'unification, de figure rassembleuse du pays. Et ça, il le fait à des fins électorales. Soyons très clairs, c'est évident. Donc, la défense, lui au moins, il fait ce qu'il fait, c'est quelqu'un de droit. Je suis désolé, ça ne tient pas vraiment.
Mais non, c'est du pipeau, je ne sais pas qui te dit ça. Mais c'est,
non, mais
c'est
on l'entend ici et là.
Quoi. C'est-à-dire que... Non, mais Trump, il sait que le seul moyen de rallier à lui son public habituel, c'est de manier la peur. Donc évidemment, il n'est pas dans le rassemblement, il est dans le contraire du rassemblement. Il ne faut pas oublier que la semaine où il y a eu, tu vois, l'énorme scandale Twitter qui a osé censurer ou au moins mettre des avertissements sur les posts du président et où tout à coup, lui est parti en sucette complet, c'est la semaine où les États-Unis passaient les 100 000 morts du Covid-19. Donc tout à coup, c'était forcément un sujet de conversation beaucoup plus confortable pour le président. Bon, évidemment, alors Alors après, avec George Floyd et ce qui s'est passé derrière, tout ça est passé évidemment au 14e plan de l'actualité. Donc maintenant, ça y est, le président a construit son mur, mais il l'a juste construit autour de la Maison Blanche. Ça, au moins, c'est réussi. Mais voilà, c'est que lui aussi, tu as d'un côté un Zuckerberg qui regarde uniquement la ligne bleue des Vosges de la courbe de son action, et un Trump qui, ce qu'il fait en ce moment, il est en train d'embaucher des analystes pour faire des méta-analyses des sondages de popularité. Il n'est pas en train d'essayer de rassembler le pays. Lui, il n'a qu'une vue, c'est novembre. Parce qu'il sait en plus que s'il n'est pas réélu, il a quand même des chances d'aller en prison. Donc on comprend l'urgence de son côté. Mais on est quand même bien loin des idéaux, tu vois, de la démocratie américaine habituelle.
Et du coup, la raison pour laquelle j'évoque tout ça et pour laquelle on en discute, c'est que la responsabilité d'avoir un discours socialement responsable retombe sur les réseaux sociaux et Twitter qui décide de donner du contexte à un message du président. C'est on va pas repartir sur ce sujet, mais Zuckerberg qui décide de ne pas le faire, c'est encore une fois dans cette idée qu'avec des grands pouvoirs arrivent de grandes responsabilités. Peut-être que Zuckerberg voit juste au milieu de tout le reste de l'industrie tech qui voit pas juste, c'est possible. Mais étant donné la position assez unique du président américain, moi j'ai l'impression que laisser faire un incendiaire, c'est plus irresponsable que le fait de mettre un seau d'eau à côté de lui pour que chacun puisse se dire « bon bah je vais éteindre le feu qui commence à prendre sur mes pieds ou au moins m'informer de ce qui se passe avec cet incendiaire ». Et voilà. Bon, bref. Ce qui est sûr, c'est que toutes les lumières, tous les lampadaires, les projecteurs, voilà, c'est ce que le terme que je cherchais, sont sur Zuckerberg en ce moment, et la pression est forte sur ses épaules. Bon, bah écoutez, c'était un sujet long. Je ne sais pas si Elsa, tu veux nous aider à conclure peut-être un dernier truc où on referme cette page ?
Non, je pense que tu as raison. Il regarde son cours de bourse et puis le reste, il a bien vu que, enfin, s'il doit dire que s'il a survécu à Cambridge Analytica, il peut bien survivre à 2-3 tweets mensongers de Donald Trump. Hein, il a peut-être mis la barre un peu trop. Peut-être qu'il y a un sentiment d'impunité aussi chez Zuckerberg. Je ne sais pas. En fait, pour tout dire, je ne comprends pas la décision. Donc, j'ai beaucoup de mal à en parler. Je ne comprends pas ce qu'il lui a pris, pourquoi il fait ça. Ouais. Pourquoi il ne prend pas position à part en disant comme ça, je ne serais pas embêté et on ne peut pas dire que je suis une plateforme de contenu et non, je ne suis pas un média et pour des problèmes de pur droit. Quoi.
Je
comprends pas.
Je crois que ça résume l'attitude générale. En fait, la raison pour laquelle ça provoque tellement de discussions, c'est que tout le monde est un petit peu incrédule. Face à cette... parce qu'il commence à y avoir une vraie obstination, en fait, de Zuckerberg sur ce point. Il commence... Ça, c'est tellement fort, et ce qui se passe aux États-Unis et autour de lui dans le monde de la tech sont tellement forts que le fait qu'il tienne bon, et on pourrait débattre du fait que non, c'est lui qui a raison parce que tel et tel truc, mais clairement, l'opinion plus que générale est que sur ce point précis, c'est compliqué de tenir bon. Et lui, malgré tout, il s'obstine. Et donc, on est très, très peu à comprendre. Enfin, si, on comprend, mais c'est difficile de se dire le bénéfice est plus grand que les problèmes provoqués à ce stade. Donc, son obstination est surprenante, on va dire.
Alors, il faudra voir quand même ce qui va se passer quand arrivera l'espèce de conseil de surveillance supérieure, l'espèce de cour suprême de Facebook qui est en train d'être nommé et qui évidemment devra se saisir de ce genre de choses, s'auto-saisir même sur qu'est-ce qui doit être normal, pas normal, autorisé, pas autorisé et comment il faut le gérer. Et ça permettra de vérifier deux choses. Un, l'efficience de ce procédé, parce qu'évidemment, là, pour le coup, il faut reconnaître à Facebook le fait qu'ils l'ont créé dans des conditions où les gens qui seront à sa tête auront les mains assez libres pour agir, avec quand même évidemment une condition, c'est de voir si Facebook se soumet à ces décisions. Ils ont dit qu'ils le feraient, on verra quelle est la limite de cet engagement.
Mais c'est ça qui est terrible, et vraiment on va conclure, mais c'est ça qui est terrible, c'est que Facebook aujourd'hui se défend de vouloir contrôler le contenu du président en disant « Ah, nous ne voulons pas être arbitrés de la vérité », mais c'est difficile de le considérer comme quelque chose d'autre que terriblement hypocrite, parce qu'ils le font, ils l'ont fait beaucoup plus que Twitter jusqu'à maintenant, et ils ont tout un tas d'organismes visés à, non pas contrôler la vérité, mais visant à contextualiser les contenus qui affirment des choses qui sont controversées ou contestées. Ils ont déjà tous ces systèmes en place. Et donc, voir Zuckerberg qui aujourd'hui dit « Ah ben non, on ne veut pas contrôler la vérité », dans le cas spécifique du président Trump dans cette crise, c'est difficile de le lire autrement qu'on n'a pas envie que Trump sorte son arsenal législatif pour nous mettre des bâtons dans les roues. Et peut-être que...
Ou sinon, il va être vice-président de Trump aux prochaines élections. On va peut-être louper un épisode. Hein.
Oui, peut-être. Je ne pense pas, mais peut-être.
Non, c'est une boutade. Oui, c'est une boutade.
mais, je vais le dire pour le principe. Peut-être qu'il a raison. Peut-être que c'est effectivement la boîte de Pandore et que commencer avec ça, ça veut dire lancer des possibilités partout, je le comprends. Et effectivement, il y a des gens qui commencent à réclamer différentes sociétés le même type d'action sur d'autres politiciens dans le monde entier. Mais si on commence à se dire... peut-être qu'il a raison, mais très clairement, en regardant dans ce cas spécifique et en ne partant pas dans la grande théorie, ce qui est un danger en soi de partir dans la grande théorie et de ne raisonner que comme ça, en regardant ce cas spécifique, il n'est pas difficile d'arriver à la conclusion que là, il faudrait peut-être faire un truc. En même temps, est-ce que ça a vraiment un effet ? Je vous laisse sur cette question. Vous avez une semaine. Je reprends les copies mardi prochain à midi, avant le début du prochain épisode. Merci Cédric, merci Elsa pour cet épisode finalement assez dense. Hein, je ne pensais pas que ça serait aussi. Merci beaucoup. Est-ce que si on veut vous retrouver sur Internet, on peut par exemple aller sur Twitter, Elsa, où est-ce que tu nous régales de tes tweets, on va dire.
Si vous voulez tout savoir de la vie du hérisson de mon jardin, c'est sur Elsa Vimbaron, tout simplement, sur Twitter.
Magnifique, merci beaucoup. Elsa Vimbaron, le lien sera dans les notes de l'émission, évidemment.
Cédric. Oui, parce qu'après, il faut savoir écrire mon nom, et ça, c'est que les gens motivés qui ont accès.
Vimbaron, très facile.
B-E-M-B-A-R-O-N, personne n'y arrive.
Mais si. Alors, au début, la première fois que tu es venu dans l'épisode, dans l'émission, je croyais que c'était Vimbaron. Et quand tu m'as corrigé, du coup, tout de suite, c'était beaucoup plus simple. Vimbaron, très facile.
Oui, j'ai le droit à mon exotisme, c'est mon nom.
Cédric
@Cédric sur Twitter et en ce moment vous pouvez m'écouter tous les jours dans On déconfine l'info, le podcast quotidien d'actualité de LCI qui est disponible sur la plateforme où vous avez trouvé ce podcast là, donc je peux pas faire plus simple que ça. Vous pouvez évidemment aussi le retrouver sur le site lci.fr dans la rubrique podcast. Voilà.
Merci à tous les deux et merci à vous tous qui écoutez. Vous pouvez nous retrouver me retrouver sur Twitter, Facebook et Instagram. Note Patrick, je suis partout Note Patrick. Vous pouvez aussi retrouver l'émission sur frenchspin.fr. Et si vous voulez soutenir, c'est sur patreon.com/rdvtech. L'émission se termine maintenant, donc c'est le moment d'aller sur le site qui est aussi en lien dans les notes de l'émission. Ça prend 2 minutes et vous ferez une bonne action qui en plus vous donnera des petits bonus super sympas, patreon.com/rdvtech, et pourquoi pas. Voilà, je vais en faire un slogan, je vais faire des affiches, des t-shirts, tout ça. Merci à tous et à la prochaine.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.